Je suis le cep et vous êtes les sarments, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Belle image, extrêmement célèbre, mais en fait ce texte m'a toujours un peu laissé perplexe. Parce que si on y trouve des affirmations essentielles, je trouve que ce texte pose aussi des questions très compliquées et pose de graves problèmes. Je vais essayer de vous montrer tout ça. D'abord, pour les enfants de l'école biblique, les enseignements un peu simples qu'on y trouve. Simples, mais pourtant vraiment, vraiment fondamentaux, je crois. Le premier enseignement est le plus évident, c'est que nous sommes appelés à donner du fruit. Nous sommes appelés à donner du fruit. Et ça, c'est fondamental parce que je crois que c'est le sens de toute la vie. Et quand on dit ça, eh bien, on dit vraiment l'essentiel, la clé, le secret, je dirais, de toute l'existence, le secret de tout le bonheur et de toute vie réussie. Il n'y a qu'une chose qui compte pour notre vie, c'est les fruits que nous donnons. Or, quand un arbre donne du fruit, ça ne lui profite pas. Par définition, un fruit qui est donné, ça ne profite pas à l'arbre, mais c'est donné pour soit que d'autres les mangent, soit pour donner naissance à d'autres fruits. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la gratuité. La grâce, c'est de donner sans rien attendre en retour. La grâce, c'est vraiment ce qui n'est pas pour moi, mais ce qui est pour les autres. Et ça, l'Évangile le dit sans arrêt, que l'important, c'est cela. C'est ce qu'il dit là, que nous avons lu, « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Ou alors encore, quand il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, etc. » Et donc, vous disais-je, la clé de la vie n'est pas compliquée. Il n'y a qu'une seule chose qui donne du sens à la vie, c'est ce que l'on donne aux autres. Voilà. Alors, donnez quoi, me direz-vous ? Eh bien, la parabole ne le précise pas. Et c'est le propre d'une parabole, justement, de laisser ouvert un certain nombre de questions pour que chacun puisse s'y engouffrer. Et donc, personne ne peut dire à un autre ce qu'il doit donner. C'est à chacun de savoir ce qu'il peut donner. Et ce qu'on peut donner à l'autre, c'est peut-être quelque chose de grand, c'est peut-être quelque chose de petit, mais peu importe, c'est ce que l'on a et que l'on donne. Avoir quelque chose et le donner, c'est le seul sens de la vie. Alors évidemment que le plus important là-dedans, ce sont les richesses spirituelles. Le plus important, c'est ce que l'on donne comme amour, comme pardon, comme joie, comme tendresse. Ou alors c'est aussi ce que Paul liste dans ce qu'il appelle les fruits de l'esprit. Un magnifique verset que j'aime beaucoup en Galates 5, 22, quand il dit ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Donc voilà la première leçon, c'est un peu connu, mais je crois que c'est bien de se le rappeler parce que nous avons tous tendance à croire que notre vie, elle sera réussie si on nous aime, si on nous donne, si on reçoit des autres. Donc on passe son temps à attendre des autres, alors que l'Évangile dit une seule chose, l'important c'est pas ce que vous recevez, mais ce que vous donnez. Ensuite, cela nous apprend d'autres choses moins évidentes, mais aussi essentielles, mais un petit peu moins évidentes. D'abord que certes, pour porter du fruit, il faut être en Christ, hanté sur le pied de vigne. Ça, je vais y revenir. Mais si je pousse l'image, je dirais que le pied de vigne, le cep, est incapable de donner du fruit s'il n'y a pas les sarments, c'est-à-dire les branches que nous sommes. Alors là, il y a une affirmation théologique déjà un petit peu plus audacieuse, mais que j'assume pleinement. C'est que le Christ est Dieu ont besoin de nous pour porter les fruits qu'il faut dans ce monde. C'est très important parce que, encore aujourd'hui, un certain nombre de gens croient dans une sorte de Dieu tout-puissant qui pourrait de lui-même donner au monde tout ce qu'il faut. Et on entend sans arrêt dans les prières universelles, Seigneur, donne la paix au monde, donne la joie à ceux qui sont tristes, donne l'espérance à ceux qui sont dans le désespoir, donne ceci à machin, donne ceci à truc. Alors qu'en fait, là, le texte dit bien, certes que le sarment ne peut rien produire s'il n'est pas greffé sur le cep, mais n'empêche qu'un cep tout seul sans sarment, ça ne produit pas de grappe. Que par conséquent, Dieu tout seul ou le Christ tout seul, sans vous, ne pourra pas donner au monde les fruits dont le monde a besoin. Et donc, puisque l'on dit que ces fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, le monde a soif de tout cela, le monde a faim de tous ces fruits. Qui les donnera? Eh bien, ce n'est pas Dieu directement, c'est vous, si vous êtes greffé sur Dieu. C'est donc la synergie entre Dieu lui-même qui inspire le croyant que les fruits peuvent être donnés au monde. Et donc notre mission à nous, c'est un rôle véritable. L'humain n'a pas un simple rôle de représentant dans ce monde, il a un rôle véritable d'acteur et d'être le porteur de, je dirais, des fruits même que Dieu veut pour le monde. Et d'ailleurs, le mot que l'on met là en parlant des sarments, en fait, c'est tout simplement le mot « branche ». Dans d'autres textes, le même mot est traduit simplement par « branche ». Et en général, dans l'Ancien Testament, ce mot « branche » est utilisé dans l'expression « envoyer ses branches ». L'arbre envoie ses branches, la vigne envoie ses branches de tel endroit ou de tel endroit, comme dans le psaume 80 que nous avons lu, ou en Ézéchiel 17. Et donc, se dire nous-mêmes « branche » de la vigne de Dieu, ça veut dire que nous nous sentons non seulement appartenir à une source fondamentale, vitale et existentielle du monde qui est source de paix et de vie, mais que nous nous sentons nous-mêmes envoyés pour porter ces fruits de vie, de paix et d'espérance dans le monde. Donc oui, nous sommes comme les prolongements de la personne du Christ dans le monde. Et par nous, le Christ peut devenir présent aux quatre coins du monde. Nous sommes comme les succursales du Christ dans le monde, ou comme ses concessionnaires, je ne sais pas. Autre enseignement qu'il y a dans ce texte, qui est encore plus controversable ou controversé, mais qui, moi, me ravit tout à fait. C'est que la plupart des théologiens d'aujourd'hui ont tendance à dire que dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme divin. C'est-à-dire que Jésus est pratiquement égal à Dieu dans l'évangile de Jean. Bon, personnellement, je mets une grande différence entre Jésus et Dieu, et on peut en discuter, mais n'empêche que ce texte-là me donne raison. Voilà, donc je l'aime bien pour ça. Parce que ici, si Jésus est la vigne, le pied de vigne, Dieu est dit être le vigneron, eh bien désolé, le vigneron, ce n'est pas le pied de vigne. Et qu'en tout cas, il est évident là que les rôles de Dieu et de Jésus sont montrés comme fondamentalement différents et de nature différente. Et donc, en effet, il y a Dieu qui, lui, a un projet, et il y a le Christ qui est là pour le réaliser avec l'homme. Et donc, évidemment que, certes, je dirais, le Christ est indispensable, mais il est quand même du côté de la créature et pas du Créateur. Je laisse ça en suspens parce que mon but, ce n'est pas de vous faire le catéchisme, mais de vous faire vous poser des questions, et donc vous pourrez y réfléchir. Mais pour ce qui est des questions, ce texte en pose encore bien d'autres qui deviennent très compliquées, et certaines, beaucoup n'ont pas la réponse. En particulier, je vous ai mis le texte exprès pour que vous puissiez regarder. Pourquoi Jésus dit-il au début « Je suis la vraie vigne » Pourquoi vraie ? Y a-t-il des fausses vignes ? Ou par rapport à quoi se définit-il comme la vraie vigne? Alors, bon, c'est un peu pinaillé sur un mot, mais n'empêche que les théologiens se cassent la tête là-dessus. J'ai deux solutions à vous proposer. Une que j'ai trouvée dans, je crois que c'est dans les Pères de l'Église, je ne sais plus, dans Saint-Augustin, je crois, où il dit, si Jésus est la vraie vigne, c'est que la vigne véritable, que nous croyons véritable, la vigne qui vous sert à faire du raisin et du vin, n'est pas la vigne vraie. Et donc ça veut dire que ce qui est vrai, n'est pas de l'ordre du biologique, mais de l'ordre du spirituel et de la vie en Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la vraie vigne, si vous demandez à vos enfants, ils vous diront la vraie vigne, c'est celle qui pousse dans le Bordelais ou en Bourgogne. Et Jésus dit non, ça c'est pas la vraie vigne. C'est une vigne matérielle qui permet de produire des raisins. Mais ce qui est vrai, la vérité vraie, c'est le Christ, c'est ce qui est en Christ. Et donc cela veut dire qu'en nous, notre vraie vie, ça n'est pas notre vie biologique, mais c'est notre vie en tant qu'elle a sa dimension spirituelle, alliée évidemment à Dieu ou pour nous chrétiens par l'intermédiaire du Christ. Autrement dit, mon corps n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est mon moi spirituel. Autrement dit encore, je peux être touché par des maladies physiques, je peux être touché par le vieillissement de mon corps, mais tout ça, ce n'est pas du véritable. Tout ça, c'est du mensonge, c'est de l'apparence. Le vrai moi, il est à l'intérieur de moi-même, et il est d'ordre spirituel, et il n'est pas d'ordre physique ou matériel, et le vrai moi, ce n'est pas mon corps. Alors, c'est, je dirais, important, parce que beaucoup de... Nous avons tous tendance à nous identifier, je dirais, à notre apparence physique, où nous avons tous tendance à croire que ce qui compte, c'est notre âge ou notre bonne santé. On le voit au moment des bons vœux. Bonne santé, Madame Michu, et surtout la santé, hein, la santé, ça c'est important. Je dis oui, mais vous savez, il y a plein de jeunes qui sont en pleine santé et qui se suicident. Et donc non, le plus important, ce n'est pas la santé. La vérité, c'est ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et votre santé, elle peut avoir tous les cancers que vous voulez, on s'en moque, parce que la vérité, elle est caché à l'intérieur, c'est ce qui en vous est en Christ. Et là, il y a une vérité vraie. Le reste est du mensonge, c'est de la poudre aux yeux. Le reste est de l'apparence. La vérité vraie, elle est à l'intérieur. Et donc, Jésus est la vraie vigne. Toutes les zones vignes du monde, elles peuvent attraper le phylloxéra, ce que vous voulez, vous pouvez les arracher, les brûler, elles peuvent être tuées par la grêle. Jésus, lui, ne l'est pas. Et le vrai moi, c'est le moi qui est attaché au Christ. Le reste, c'est de l'apparence trompeuse. Autre proposition. Celle-là, je l'ai trouvée nulle part, je l'ai inventée. La vigne. Donc Jésus dit qu'il est la vraie vigne, le vrai pied de vigne. J'ai cherché partout dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on trouve des vignes. Et en général, la vigne dans l'Ancien Testament est une image de l'être humain ou du peuple d'Israël. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume 80, où on dit « cette vigne que tu as enlevée d'Égypte, tu l'as replantée dans la terre promise, etc. » Donc, c'est le peuple. Et donc, la vigne, dans la Bible, c'est l'humain, c'est l'homme qui a la vigne. Et Jésus, il est la vraie vigne, c'est-à-dire qu'il est l'homme véritable. Et donc, il y a une humanité. Nous sommes tous normalement de la vigne. Il y a une humanité un peu fausse, et l'humanité vraie, c'est le Christ. Ça, c'est parce que je crois que Jésus est le seul homme véritable. Véritable dans le sens qu'il est le seul homme en vérité tel que Dieu le veut. Quand Dieu crée l'homme, en tête, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas, je dirais, les imbéciles qui violent, qui tuent, qui volent, qui détruisent, qui abîment. Il n'a pas en tête ces imbéciles qui simplement passent leur temps à regarder la télé, des matchs de foot ou des jeux vidéo. Il a en tête le Christ. C'est ça l'homme véritable. C'est l'homme voulu par Dieu. Tout le reste ne sont que des mauvaises images, des mauvaises copies, des représentations un petit peu fausses de l'homme véritable. L'homme véritable, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus se fait appeler le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il est l'homme réel. Et nous ne sommes que des sortes de préhominiens, si vous voulez, par rapport au Christ. Nous sommes des préhominiens, nous sommes mi-homme, mi-bête, mi-imbécile, mi-idiot, mi-ce que vous voulez, mi-n'importe quoi. Mais l'homme véritable, c'est Jésus. Pour ça que Jésus dit qu'il est, lui, la vraie vigne. La vigne voulue par Dieu, cette vigne que Dieu veut planter dans le monde pour qu'elle produise des fruits véritables, c'est le Christ. Et nous sommes invités effectivement à devenir semblable au Christ, à être comme la vraie vigne. Et simplement, ce que nous dit là Jean, c'est que finalement, nous pouvons à notre tour participer à cette œuvre de la vraie vigne si nous nous greffons à lui. Que nous ne pouvons pas prétendre nous-mêmes être vraie vigne, parce que tout seul, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que dit Jésus. Mais ça, c'est vrai, nous l'expérimentons sans arrêt. Nous avons beau avoir des projets de pureté, de perfection, de réussite. Nous échouons sans arrêt. Et donc, nous ne sommes sans arrêt que des vignes piétinées, mangées par les passants, dévorées par les sangliers qui passent, comme dit le psaume 80. Mais il y a pour nous la possibilité de participer à l'œuvre de la vraie vigne si simplement nous nous greffons sur le Christ lui-même. Ensuite, autre question qui m'a interrogé. Pourquoi certaines traductions mettent-elles dans la bouche de Jésus « je suis le cep » et d'autres disent « je suis la vigne » ? Alors c'est amusant, j'ai fait une petite étude et je me suis aperçu que toutes les Bibles protestantes mettaient « je suis le cep et vous êtes les sarments » et que les Bibles catholiques mettent « je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Autrement dit, il y a sous ce petit choix de traduction un enjeu beaucoup plus important que vous n'imaginez. Et l'enjeu, c'est le suivant. Qu'est-ce qui est fondé sur le Christ ? Est-ce que ce sont les fidèles ou l'Église ? Le cep, on a l'idée d'un individu. En effet, un cep, c'est un pied de vigne, alors que si on parle de la vigne, on a l'impression que c'est, d'une façon globale, l'ensemble du vignoble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où bon, l'œcuménisme ne pose plus beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais il reste des différences de sensibilité, qui fait que là où l'Église catholique romaine résonne en collectivité, l'important c'est l'Église, c'est la communauté, c'est l'ensemble. Les protestants résonnent en individu, l'important c'est l'individu, c'est la personne. Et donc quand Jésus dit « je suis le cep et vous êtes les sarments », on dit que l'important c'est la personne elle-même qui se fonde sur le cep qui est le Christ. C'est-à-dire qu'on est dans l'individu et le vignoble sera l'ensemble des personnes qui se fondent sur le Christ. Quand Jésus dit « je suis la vigne », on a une impression de globalité qui veut dire que finalement, à la limite, on assimile le Christ à la globalité, c'est-à-dire à l'Église. Et que du coup, le but, ce serait de rester attaché à la vigne globale, c'est-à-dire de rester attaché à l'Église. Et donc, dans la théologie protestante, le but, c'est que chacun personnellement reste attaché à la personne du Christ. Et dans la théologie romaine, je simplifie bien sûr, le but, c'est que chacun reste attaché à la collectivité de l'Église qui, elle, est fondée sur le Christ. Alors, c'est vrai que la confusion est possible parce que le mot « vigne » en français peut désigner soit le vignoble, soit le pied de vigne. Mais en grec, ce n'est pas le même mot. Bon, c'est « ampelos » veut dire le pied de vigne et « ampelon » la vigne au sens vignoble. Et donc, en tout cas, dans le texte, il n'y a pas de doute possible, c'est bien le « cep », c'est-à-dire le pied de vigne. Et mettre « vigne » au lieu de « cep », c'est engendrer la confusion, je n'y suis pas très favorable. Allons encore plus loin, cette fois, dans les problèmes. D'abord, problème que l'on évoque assez peu, c'est la question des sarments qui ne produisent pas de fruits et qui sont retranchés et jetés au feu. Alors avouez que là, c'est quand même un petit peu moins drôle, et on aime bien quand Jésus nous donne des paraboles qui nous revigorent, mais là, c'est assez peu sympathique, cette idée. On y voit une sorte de menace d'enfer ou de jugement dernier, où les mauvais seront jetés au feu, enfin c'est assez terrible. Et c'est d'autant plus curieux que l'évangile de Jean est plutôt l'évangile de la grâce. Donc comment, tout à coup, peut-on trouver un passage aussi terrifiant et menaçant ? Alors, j'ai lu tous les commentaires, évidemment, je travaille pour ce moment, et ce que disent les commentaires actuels, contemporains, C'est eux qui le disent, je suis tout à fait opposé à ce qu'ils disent, hein, je vous l'expliquerai. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ce texte, l'évangile de Jean, est tardif. Il a été composé en 95 après Jésus-Christ. Et que, autrement dit, Jésus n'a jamais dit ces choses-là, que tout ça a été inventé par le pseudo-évangéliste Jean, parce que l'Église était dans des persécutions et que l'Église naissante devait resserrer les rangs et que par conséquent on disait « Attention, si vous vous éloignez du Christ, vous périrez », c'est-à-dire une sorte de discours très radicalisé, je dirais, d'une Église menacée qui essaye de se construire. Bon, je ne crois pas un mot de ce genre d'explication. Je suis peut-être naïf, mais si c'est pour lire des récits écrits en 95 par une communauté radicalisée, c'est pas la peine de me vendre des Bibles où il y a écrit « Parole de Dieu » dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Vous pouvez vous intéresser à l'histoire, peut-être, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait nourrir ma foi. Et donc, laissez tomber ça. Il y a évidemment d'autres solutions plus astucieuses que cette façon de botter en touche. La première habituelle, quand il est question d'apparence de punition dans la Bible, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais de la mise en garde d'une conséquence. Je vous ai dit tout à l'heure, le seul sens de la vie, c'est de donner du fruit, et puis c'est tout. Eh bien, si vous n'êtes pas capable de donner du fruit, vous crèverez desséché. Voilà, c'est tout, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Et c'est une vérité. Jésus, il est peut-être gentil, Dieu, il est gentil, tout le monde est gentil, Dieu vous accueille, il vous pardonne. Mais n'empêche que votre vie ici-bas, avec ou sans pardon de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Donc il y a quand même à un moment donné un enjeu dans l'existence. Si vous restez dans l'égoïsme et dans le centrage sur vous-même, vous crèverez desséché, avec la grâce de Dieu si vous voulez, mais vous crèverez quand même desséché. Voilà, c'est bon de le savoir. Donc autrement dit, oui, il n'y a pas d'autre issue que de savoir donner, de s'oublier soi-même pour donner aux autres. C'est la seule logique. Et jusqu'à sa dernière heure, si vous savez donner et non pas vous préoccuper de vous-même, vous serez heureux, comme le dit l'Évangile là, et vous aurez la vie. Voilà. Autre solution, là je m'emballe un peu dans une solution un peu moralisante, mais pas tout à fait fausse néanmoins. Autre solution pour vous remonter un petit peu quand même, pas trop vous effrayer, c'est de dire que en fait, qui est bon et qui est mauvais? Alors là, je vois votre introspection, vous dites, alors moi, suis-je un bon sarment ou un mauvais sarment? Est-ce que je produis du fruit? Est-ce que je n'en produis pas? Réponse, on est un peu un mélange des deux. Et il y a en nous des moments qui produisent du fruit, des moments où on n'en produit pas. Nous sommes à la fois bon et mauvais, aucun de nous n'est un seul sarment. Je dirais que nous sommes un buisson de sarments dont certains produisent du fruit et d'autres n'en produisent pas. Alors peut-être que cela veut dire que le regard que Dieu a sur nous, c'est que tout ce qui en nous est d'ordre de l'égoïsme, de la stérilité pure, Dieu le dit, écoute, t'inquiète pas mon gars, pas de souci. Tous ces buis, toutes ces branches inutiles, stupides, qui ne valent rien, il les enlève, il les brûle. Bonne nouvelle, ça laisse de la place pour les autres. Et surtout, Dieu ne va pas garder pour l'éternité tous mes moments d'égoïsme, mes moments de recentrage sur moi-même, mes moments d'introspection stérile. Tout ça, c'est jeté au feu, c'est brûlé, on n'en parle plus. Donc ce n'est pas une menace, c'est une bonne nouvelle. Dieu me libère, il ne prend pas en compte tout ce qui en moi est stérile. Donc oui, bien sûr, il y a en vous des rameaux stériles. Évidemment qu'il y en a, mais ne vous inquiétez pas. Dieu ne les garde pas pour vous les mettre devant les yeux sans arrêt et vous dire « Vous voyez, à tel moment, t'as pas donné. » Tout ça, Dieu l'oublie. C'est jeté au feu, on n'en parle plus. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou alors, c'est aussi pour nous inviter nous-mêmes à ôter de notre vie ce qui ne donne rien aux autres, à ôter les rameaux stériles, à s'en débarrasser. Toutes ces choses qui nous retournent sur nous-mêmes, ça empoisonne notre existence, ça l'étouffe. Et donc, enlevons tout ça, brûlons, mettons au feu tous ces rameaux stériles, tout ce qui en nous ne sert à rien, tout ce qui en nous ne donne rien aux autres. Eh bien, débarrassons-nous-en pour laisser de la place à ce qui vaut quelque chose. Et donc, il y a plein de choses qui encombrent nos vies et qui ne donnent rien aux autres. Et tout ce qui dans nos vies nous encombre, nous donne du souci, nous prenne du temps, de la préoccupation, et qui ne sert à rien pour les autres, au feu, au feu, au feu, au feu, et au feu, débarrassez-vous-en. Et l'enjeu, c'est pas pour mettre tout ça une pression morale, parce que c'est vrai, il dit tout ce qui ne produit pas de fruits sera jeté, mais si vous lisez bien ce que dit Jésus, c'est que si vous êtes en Christ, automatiquement vous produirez du fruit. Et donc il ne s'agit pas de se forcer non plus à donner du fruit, mais ça se fait tout seul. Il suffit de centrer sa vie sur l'essentiel et sur le Christ, et à ce moment-là, tout va bien. L'autre problème, ce sont les bons sarments qui sont émondés. J'ai mis le texte. Tous les sarments qui produisent du fruit, ils les émondent. Alors là, c'est pas drôle non plus. Ça laisse imaginer que Dieu envoie des épreuves à ceux qui font déjà le bien. C'est l'explication morale qu'on donne dans les bons catéchismes. Que Dieu nous maltraiterait pour qu'on fasse encore plus de bien, que Dieu en veut toujours plus, etc. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire émonder ? Si on garde le sens français, émonder, ça veut dire retirer certaines choses pour que ce qui produise du fruit en produise encore plus. Ah, ça c'est pas mal ça. Oui, effectivement, peut-être que parfois, nous devons accepter d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Et donc il y a dans notre vie un travail d'émondage, c'est-à-dire de purification de notre vie. Je pense que pour que notre vie soit féconde, il faut non pas rajouter des actes religieux, des actes d'amour, des actes de don, etc., mais plutôt retirer des choses. Et si on donne déjà du fruit, tant mieux. Eh bien, retirez encore ce qui ne donne rien. Et plus vous en retirerez, et plus vous en donnerez pour en donner encore plus. Parfois, il vaut mieux donner moins, avoir des projets moins grandioses, pour pouvoir porter plus et du meilleur. Et en fait, et le mot qui est là, émondé, j'ai cherché, ça ne veut pas du tout dire émondé en grec. Katartos, kataros, kateiro, ça vient de kataros qui veut dire pur. Et donc il ne s'agit pas de couper quoi que ce soit, mais de purifier. C'est pour ça que dans la traduction, j'ai mis entre parenthèses purifier. Et donc il ne s'agit pas de couper quoi que ce soit, mais de purifier. Et ce que dit le Christ, c'est qu'il dit, « Et déjà, vous êtes purifié par la parole. » Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui émonde, Dieu qui châtie, Dieu qui punit, mais c'est la parole elle-même qui se charge de nous purifier et de nous émonder. C'est l'action de la parole sur nos vies, parce que quand on se confronte à cette parole de l'Évangile, eh bien ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Ça nous permet de nous débarrasser peut-être de l'inutile. Et ça, c'est le rôle automatique de la parole, pas de Dieu qui viendrait nous punir de je ne sais quoi. Mais la confrontation avec cette parole de l'Évangile nous purifie et nous recentre sur ce qu'il y a de plus important. Et quand on donne du fruit, c'est un cercle vertueux, puisque à ce moment-là, Dieu nous purifie, il nous déleste de l'inutile pour être de plus en plus disponible. Et donner est une logique. Plus on donne et plus on se purifie aussi, puisqu'on a moins. Et moins on a, plus on peut donner, d'une certaine façon. Et c'est cette parole qui nous émonde et nous purifie. Quant à la base de tout ça, c'est de demeurer en Christ. Si vous demeurez en moi, bon. Alors là, ça, c'est plus un problème, vous l'admettez volontiers, sauf que je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire en tant que tel. Demeurer en moi. Ouais. Si je demeure en Christ, je produis du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, moi, je me pose des questions bêtes. Alors, j'ai deux solutions à vous proposer. Une, c'est la solution mystique. Si vous êtes un mystique émotionnel, mettre Jésus dans son cœur, l'aimer, penser à lui, vivre toujours uni à lui par l'amour, et ceux qui ont un tempérament mystique comprennent ça. Avoir l'impression que Dieu est présent en nous comme une source interne d'amour, et qu'on se sent aimé, on se sent pardonné, plein de grâce, et à ce moment-là, ça fait déborder de reconnaissance et de joie. Et celui qui se sent au fond de lui-même, grâce à sa foi profonde, sans arrêt aimé et accompagné par Dieu, pardonné par Dieu, gracié par Dieu, eh bien il sort rayonnant de grâce, d'amour et de pardon pour le monde. Ça, c'est une chose merveilleuse, effectivement, parce qu'on ne peut donner qu'à partir de ce que l'on a reçu, et on ne peut pas se forcer en serrant les dents à aimer, à pardonner. Ça n'est qu'un mouvement généreux du cœur, et celui qui se sent aimé par Dieu, et quand on se branche sur le Christ, eh bien on ressent tout cet amour de Dieu qui nous envahit. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, passez directement au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est d'un point de vue intellectuel. Jésus est parole. Ça, c'est la base de l'évangile de Jean. Et pour nous, nous ne connaissons Jésus que par son enseignement, qu'on appelle son évangile. Et l'évangile, ce sont des valeurs. C'est un idéal. Aimer, pardonner, donner, servir. Et donc, être en Jésus, c'est être dans les règles, dans les exigences de l'évangile. Et mettre Jésus en soi, c'est intégrer ses valeurs, les intérioriser et en faire la base de sa vie. C'est ça, être demeuré en Christ, demeuré en Jésus, et que Jésus demeure en nous, c'est faire de l'évangile, du message de l'évangile, son, je dirais, sa base, son fondement, sa logique, son idéal, le cœur de sa vie, c'est-à-dire son, je dirais, son logiciel système, pour parler d'une façon qui nous parlerait à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends ça, et c'est lorsque je prends l'Évangile comme système fondamental pour ma vie, alors je peux faire des choses merveilleuses. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux dimensions de la foi. Mais dans tous les cas, Jésus ou son Évangile sont bien la source fondamentale de la vie et de la joie, et nous aident à porter les bons fruits pour les autres. Et finalement, vous voyez qu'il s'agit juste de se remplir de tous les dons du Christ pour pouvoir ensuite déborder et rayonner. Et c'est ça qu'on trouve à la fin du texte, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et donc oui, il ne dit pas ça pour nous donner un exemple culpabilisant, pour mettre la barre haute, mais c'est plutôt pour dire, si vous vous savez aimer et libérer, si vous croyez fondamentalement dans l'amour et dans le pardon, alors vous saurez aimer et libérer, et grande sera votre joie, et ce sera aussi une chance formidable pour le monde qui vous entoure. Amen.